Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. L'histoire des tueurs du Brabant adaptée en série télé, c'est ce dimanche sur la RTBF. On vous dit ce qu'il faut en penser. Du football, ce matin dans À propos, Anderlecht déçoit cette saison. On se penche sur la crise qui couve au Sporting bruxellois. Mais avant ça, Le Soir et d'autres quotidiens francophones ont décidé d'unir leurs forces pour dire leur solidarité envers Olivier Van de Castel. Nous sommes le vendredi 20 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Une opération spéciale, ce matin, plusieurs quotidiens francophones marquent leur soutien à Olivier Van de Castel, toujours emprisonné en Iran. Une publication conjointe et exceptionnelle. Alors comment cette initiative est-elle née? Pourquoi c'est important d'exprimer sa solidarité? Louise Canu a posé ces questions à notre rédacteur en chef, Christophe Berti.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
Pourquoi c'est important pour la presse belge notamment de marquer sa solidarité avec Olivier Van de Castel?
Parce que je pense que à cas exceptionnel, malheureusement, dispositif exceptionnel. Le sort d'Olivier Van de Castel émeut les Belges, c'est normal, hein, c'est absolument incroyable. Et innommable ce qu'il vit. Comme vous l'avez dit, il est emprisonné depuis près d'un an dans des conditions absolument innommables. On peut imaginer l'angoisse de d'abord la sienne et puis l'angoisse de sa famille. Et donc par rapport à ça, l'ensemble des journaux francophones, et je tiens à souligner ici le fait qu'on n'est pas dans un aspect de concurrence, on n'est pas dans un aspect de scoop là-dedans, on dépasse ça. L'ensemble des journaux francophones, c'est-à-dire ceux du groupe Rossel, le groupe Sud Info et Le Soir, et ceux du groupe IPM, La Libre, L'Avenir et la DH, et je tiens à souligner la réponse positive que tous les journaux ont donnée à cette initiative, ont voulu marquer le coup en publiant le même texte, ou les mêmes textes, c'est-à-dire à la fois un aspect factuel pour expliquer à la population ce qu'il en est et pourquoi nous faisons ça, et à la fois un portrait d'Olivier Van de Castel là, et nous avons recueilli une série de signatures de personnalités qui appuient cette demande de libération. Par ailleurs, Amnesty International de son côté a lancé avec la famille une pétition qui a recueilli un succès qui montre l'importance et la solidarité que les Belges peuvent apporter à ce cas et qui est tout à fait hors norme.
Comment est née précisément cette initiative d'une publication commune?
L'ensemble des journaux, les autres comme Le Soir, sont sur l'affaire évidemment, et alors il est quand même très important d'expliquer que nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une ASBL, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes journalistes. Nous travaillons avec notre indépendance évidemment, et en recoupant les informations. Mais ici, il y a eu une volonté de l'ensemble des journaux autour d'Amnesty International de se dire « Ok, on peut oublier le côté concurrence et on peut oublier le côté scoop. » Et je pense qu'on s'associe tout simplement à la solidarité de la population belge. C'est aussi une manière d'être connecté avec nos lecteurs et avec la population, de se dire qu'il faut marquer le coup et montrer. On dit souvent que le journalisme, c'est un peu du Kleenex, c'est-à-dire on fournit une information, puis on la jette, il y en a une autre qui tue la précédente là-dedans. Et le fait de garder la pression sur ce sujet et de montrer que la solidarité avec Olivier Van de Castel ne faiblit pas, ça me paraît aussi démocratiquement important.
À lire vendredi donc. Merci beaucoup Christophe.
Merci à vous.
Grand angle.
En football, rien ne va plus au Sporting d'Anderlecht. Les Bruxellois ont été battus cette semaine par Zulte Waregem. Une défaite de plus dans une saison qui s'annonce comme historique, dans le mauvais sens du terme. Anderlecht est 13e, plus proche de la relégation que d'une place européenne. Les supporters en veulent à la direction, les joueurs paraissent perdus. Alors que s'est-il passé au sein du club le plus titré du Royaume? Pour le comprendre, on est allé voir Christophe Berti. Avant d'être rédacteur en chef, il a été journaliste sportif et a suivi le club bruxellois. Bonjour Christophe.
Bonjour Pierre.
C'est la crise au Sporting d'Anderlecht?
Alors là oui, ça, si c'est pas la crise aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Crise qui est à différents niveaux. Hein. Il y a une crise sportive évidente, vu le classement de l'équipe. Il y a une crise financière qu'on connaît depuis longtemps et qui explique en partie la crise sportive. Et je dirais même qu'il y a une crise de gestion, de ligne claire, comme on appelle ça, de la gouvernance en fait, clairement. Il y a trois crises à Anderlecht.
D'abord la crise sportive.
sportive, c'est peut-être celle dont on parlera le moins. C'est un manque de qualité parce que c'est clair, quand on voit le classement auquel aujourd'hui se trouve le Sporting Anderlecht, c'est une place indigne de son standing.
Ça, c'est sûr. Je pense que le classement actuel d'Anderlecht est dû à un mercato d'été raté. Anderlecht a acheté Fabio Silva qui ne désire plus rester dans le club. Esposito, dont on a vu qu'il n'était pas à la hauteur des espoirs qu'on mettait en lui. Je rappelle qu'ils ont acheté un joueur qui s'appelle Ijak qui joue en U23. Ils ont acheté Angulo qui a joué quelques minutes depuis. Et donc, en fait, quand on regarde ça, c'est des renforts qui n'en sont pas vraiment. Je retire de ça Jan Vertonghen, évidemment, qui, dans cette galère, il doit se demander où il est arrivé. Je trouve est exemplaire en termes de mentalité et même en termes de jeu. Et le jeune Ndiaye qui vient de Barcelone, là-dedans, mais on ne peut pas demander à ce jeune homme, évidemment, de tout porter. Donc, il y a d'abord, pour moi, sur cette crise sportive, un mercato raté. Et on sait à quel point, en Belgique en tout cas, le fait d'avoir un vrai buteur fait la différence entre une équipe moyenne et une bonne équipe. Là-dedans, mon constat est un peu dur, mais je le pense. Et Anderlecht ne s'était pas trompé les années précédentes avec Nmecha et avec Zirze, mais on savait que c'était des prêts, hein, qu'ils étaient obligés financièrement de passer par là. Ben, cette année-ci, alors Fabio Silva, on peut discuter, il a marqué des buts, mais il n'a pas assez pesé. Et Esposito, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible sur le côté échec. Et donc voilà, en fait, ça. Et puis, il y a quand même l'instabilité qui est donnée dans cette équipe, qui est un petit peu ce qui se passe. C'est un peu la poule et l'œuf et le cercle vicieux. C'est quand ça ne va pas, on change beaucoup d'équipe, on change beaucoup de tactique, on change d'entraîneur.
On change de président.
On change de président. Donc quelqu'un, pour en rester au sportif, comme Jari Vorskaren a dû, je pense, jouer à 3-4 places différentes depuis le début de la saison. Enfin, pour l'excuser, parce que je pense aussi que c'est un peu un échec pour Vorskaren, dont on attendait sans doute qu'il prenne davantage l'équipe en main. Et aujourd'hui, il y a un manque de leader, il y a un manque de talent, il y a un manque aussi quand même de confiance. Anderlecht n'est pas aussi mauvais que son classement l'est aujourd'hui, mais il n'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui une équipe capable d'être dans le top 4, et je suis même pas sûr d'être dans le top 8.
Il y a un mercato raté, il y a une erreur de casting, une erreur de vision aussi à long terme, parce que quand Vincent Kompany s'en va à la fin de la saison passée, il laisse pas du tout une équipe exsangue. Et pourtant, Felice Mazzu arrive, auréolé d'un titre de meilleur entraîneur de Belgique, mais avec un profil qui colle peut-être difficilement à celui du club, et puis la mayonnaise n'a pas pris.
Exactement, alors il ne faut pas non plus aujourd'hui déifier le passé. Vincent Kompany s'était mis beaucoup de gens à dos à l'intérieur du club par son comportement aussi, et à ce moment-là, mais tout est relatif dans la vie, on trouvait qu'être troisième et être battu en finale de la Coupe de Belgique
c'était pas assez.
Était un échec. Aujourd'hui, il serait très content d'être troisième et encore qualifié en Coupe de Belgique, donc il est évident. D'autant plus quand on voit comment Kompany peut évoluer en Angleterre, évidemment, ça laisse un peu perplexe. Je me souviens des arguments du président Van den Noot pour prendre Mazzu, où il disait que par rapport à Kompany, il fallait un management différent, plus meneur d'hommes et moins clivant, et Mazzu rencontrait ça. Un management d'expérience, alors que Kompany n'en avait pas là. Quelqu'un qui a prouvé qu'il fait des résultats en Belgique, ben voilà. Donc en fait, quand on reprend ça froidement, maintenant c'est facile de dire que Mazzu est un entraîneur provincial, ne s'adaptait pas au club, etc., etc. Il y avait une certaine logique.
Tout collait au moment où on l'engage.
Exactement. Et puis après, il y a sans doute, on l'a dit à ce moment-là, l'entêtement de Mazzu n'a pas changé de tactique. Sans doute aussi, peut-être ce grand écart là qui a dû en perturber. Et en fait, c'est ce que je disais depuis le début, c'est un mercato raté, un changement de philosophie, un changement de staff. Depuis lors, de nouveau, il y a eu deux changements de staff depuis. Ça crée une instabilité et il y a une règle absolue dans le football qui est le milieu le plus volatile qu'il soit, c'est que la stabilité, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est les mêmes joueurs au Real Madrid depuis des années, ils traversent les crises et ils gagnent la Ligue des Champions. Et on voit qu'aussi, on reprochait à Anderlecht, à l'Anderlecht de Van den Stock, d'être un peu ce qu'on appelait la cour d'Angleterre, c'est-à-dire quelque chose d'un peu figé, d'un peu conservateur. Et Anderlecht, sur 20 ans, a connu un seul président, Roger Van den Stock, deux managers, Michel Verschuur puis Herman Van Otsbeek, étaient très conservateurs avec les entraîneurs. Ils en ont rarement mis un dehors. Alors évidemment, les résultats suivaient aussi, mais il y avait comme ça cette espèce de stabilité. On voit à quel point c'est important là. Aujourd'hui, depuis que Marco a racheté le club, on a vu qu'il y avait une trentaine de fonctions qui avaient changé là, avec évidemment le dernier élément qui a expliqué tous les soucis qu'il y a eu autour de Wouter van den Noot, c'est de toucher au dernier ciment du club, oui, qui est Jean Kindermans.
Responsable de la formation.
Responsable de la formation, excusez-moi, de Nerped, éleveur de champions, comme on le dit dans le milieu. Aujourd'hui, je ne parle même pas de former Vincent Kompany ou Romelu Lukaku, mais si aujourd'hui, sur les 5 dernières années, c'est-à-dire depuis que Marco est président, Anderlecht n'avait pas pu vendre Doku, Sambi et tous les autres. Là-dedans, il y en a eu chaque année. Là, je ne sais pas où serait le club qui est déjà en difficulté financière aujourd'hui.
Le début de cette spirale négative, c'est l'arrivée de Mark Cook comme actionnaire principal.
Alors,
du club.
C'est toujours facile de le dire après, hein, mais il faut quand même constater que Mark Cook est arrivé de manière très arrogante en disant « C'était bien, c'était sympa Anderlecht, mais on va quand même en faire un truc plus moderne, plus dans un marketing du 21e siècle, on va dépoussiérer tout ça et on va être en Ligue des Champions. » Voilà, aujourd'hui, je pense aussi que Anderlecht, pendant très longtemps, et sans doute un peu aujourd'hui, paye l'incroyable mercato raté de Luc De Vrouw et de Mark Cook lors de leur arrivée, où ils ont dépensé beaucoup d'argent pour acheter des joueurs comme Di Matta, comme Sané, Makarenko, Milic, et toute une série d'autres qu'on a oubliés, dont on ne sait même plus qui jouent au foot, là-dedans, qui ont coûté très très cher, et qui ont fait en sorte qu'après, ils ont dû vendre leurs joyaux, et heureusement qu'il y a des jeunes, et encore aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je me demande même presque par défaut s'il n'y avait pas autant de talent en RP, avec quelle équipe il jouerait en équipe première aujourd'hui. Et en fait, ce mercato raté a eu des conséquences financières énormes parce qu'il y a quand même un élément extrêmement important à comprendre, c'est que je ne vais pas dire que c'est des clubs en Belgique qui évoluent en flux tendu, mais quand même, là-dedans, si on n'a pas les rentrées, ben forcément, les salaires, on ne peut pas les payer, on ne peut pas attirer des joueurs, etc., etc. Et pour avoir les rentrées, c'est quoi les rentrées d'un club de foot ? Les rentrées d'un club de foot, c'est un, les tickets, mais on sait que les stades en Belgique ne sont pas extensibles.
Et il y a eu une période compliquée avec le Covid.
Évidemment, que Anderlecht à Bruges, ben, au Standard, c'est carrément rempli tout le temps et que donc là, ils ne peuvent pas avoir une croissance énorme en termes de rentrées. On sait que c'est des sponsors, même chose, ben, ils ont tous full de sponsors et le marché belge étant ce qu'il est, c'est difficile d'augmenter là-dedans. Et comme vous le dites justement, le Covid a touché ces deux types de rentrées, hein, évidemment. Un, il n'y a eu plus personne dans le stade et deux, ben, forcément, les sponsors étaient moins intéressés. Il y a les droits télé, on sait qu'ils sont importants en Belgique. Eleven met plus de 100 millions pour les droits télé en Belgique, c'est pas rien, mais on sait que c'est pas non plus comparable avec des clubs européens. Et donc, pour des clubs importants en Belgique, les rentrées européennes, les qualifications pour la Ligue des Champions, les primes, etc., etc.
C'est indispensable.
C'était ça qui faisait tourner Anderlecht. Quand Herman Van Otsbeek disait on doit être deux fois sur trois en Ligue des Champions, là-dedans, alors qu'il faisait rire tout le monde à côté en disant qu'il fallait du football champagne, qu'il n'y avait déjà plus. Mais le football non champagne, dirait Van Otsbeek, ferait bien du bien à Anderlecht aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est même plus du tout, il n'y a plus du tout une bulle dedans. C'était l'obligation d'avoir ces rentrées européennes. Et donc, c'est un cercle vicieux. On n'a pas de rentrée européenne, on est moins fort sportivement. On est moins fort sportivement, on ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe. On ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, on a moins d'argent. Et donc, on doit louer des joueurs sur lesquels on n'a pas de possibilité de revente, comme Zirkzee, comme Nmecha, comme tous les autres là-dedans. Et donc, ben, on ne doit pas se tromper chaque année. Ils ne se sont pas trompés avec Zirkzee, qui était un bon joueur. Ils ne se sont pas trompés avec Nmecha, par exemple. Ben, ils se sont trompés avec Fabio Silva. Et en tout cas, ça c'était peut-être un peu dur, mais en tout cas avec Esposito. Et donc, ben, ça fait qu'aujourd'hui, la masse salariale Anderlecht dépasse les moyens du club. Le manque de confiance est absolu. Et on est rentré dans une phase, et ça je voudrais insister là-dessus, d'instabilité dans la gestion. En fait, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qui dirige Anderlecht. Et je pense que cette instabilité, elle naît de la division du conseil d'administration où il y a trois clans. Il y a le clan Cook qui reste propriétaire du club. On n'entend plus Mark Cook aujourd'hui. Il ne monte plus sur les tables et il ne chante pas comme il le faisait à Ostende. Hein. Il a fait ça au début, Anderlecht. Et puis,
au tout début.
Et puis quand il a vu qu'il pensait être considéré comme une star qui apportait du bien et qui allait augmenter son aura, quand il a vu que dans le foot, dès que ça ne va pas, les grands arts prennent beaucoup de vent. Ben donc Anderlecht, ce n'est pas Ostende. Et quand ça ne va pas, l'ensemble des journalistes sportifs de Belgique sont dessus pour l'analyser. Il s'est un peu retiré, mais il est toujours propriétaire du club. Aujourd'hui, il n'a pas vendu le club. On a encore expliqué il n'y a pas longtemps qu'il ne voulait pas le vendre. Et puis, il y a le clan Van den Noot, qui au départ était opposé à Mark Cook et qui après est quand même rentré dedans et est aujourd'hui président. Et puis, il y a toujours les petits actionnaires là-dedans, représentés par Étienne Davignon, qui, alors forcément, sont petits et sont minoritaires, mais ont leur mot à dire.
Et ont toujours un pouvoir d'influence.
Oui, exactement. Et en termes, par exemple, de recapitalisation, de vision stratégique, enfin, comme tous les conseils d'administration. Et je pense que le fait qu'il y ait cette instabilité, elle est due à cette instabilité-là au sommet, où je ne pense pas qu'il y ait une vision claire, précise, où tous ensemble on veut aller. Ils vont dire évidemment le contraire, ils ont fait des lettres aux supporters et ils ont fait des discours un peu matamoresques. On voit où aujourd'hui Anderlecht n'a jamais été aussi bas dans son histoire en Division 1 que c'est le cas aujourd'hui. Et donc il y a quand même, tant que je pense qu'il n'y aurait pas, alors c'est peut-être un peu caricatural et réducteur, mais un décideur qui tient à ses idées et qui maintient le cap, je pense que ça va durer encore Anderlecht là. Et l'autre élément, c'est que pour le succès d'un club de foot en Belgique, il faut à mes yeux deux choses. Un bon financier, businessman avec une vision, et deux, quelqu'un qui connaît le foot. Alors, on peut critiquer plein de gens dans plein de clubs, mais il y a des spécialistes de foot. Aujourd'hui, je ne sais pas, à Anderlecht, à part Jean Kindermans, qui connaît bien le foot. C'est absolument terrible de vous dire ça, mais je le pense.
C'est le meilleur exemple de l'instabilité dont on parlait il y a quelques instants. Ceux qui dirigent au niveau exécutif le club aujourd'hui, pour le sportif comme pour le non-sportif, c'est Jesper Fredberg et Kenneth Borno, deux hommes qui n'avaient pas de fonction à Anderlecht il y a six mois, il y a un an.
Exactement. Alors, ça peut, heureusement qu'il y a du changement et ça peut arriver, mais avoir tout ce changement en même temps, avec des gens qui n'ont pas l'ADN du club, qui ne connaissent pas forcément le milieu en Belgique, qui maîtrisent leur biotope en quelque sorte là-dedans, ben c'est forcément assez inquiétant. Alors que Anderlecht, pendant des années, avait cette espèce d'apanage-là, outre Jean Kindermans pour Nerpede, il y avait des gens comme Jean Dox à l'époque. Les entraîneurs passaient et Jean Dox restait. C'était la ligne de conduite. Et puis Frank Vercauteren a rempli ce rôle. J'imagine qu'ils imaginaient eux-mêmes l'avoir avec Vincent Kompany là-dedans, mais si vous voyez, il y a eu je ne sais pas combien d'entraîneurs depuis que Marc Houck est là, et des entraîneurs parfois fantoches pour permettre à Kompany de l'être, et puis une dispute avec Vercauteren. Aujourd'hui, un entraîneur que je ne connaissais pas il y a trois mois, ça fait 30 ans que je suis le foot, là-dedans, tout ça est un peu, et j'ai rien contre ce monsieur, qui a un bilan de 4 sur 12 maintenant, avec une victoire par hasard à Charleroi, et un point à Bruges sans un tir cadré, bah, tout ça est évidemment un peu compliqué.
Une dernière petite chose, je sais que ça va un peu vous énerver, mais on peut faire un parallèle avec un autre club historique du pays qui est passé par des périodes très difficiles, qui est toujours dans une période difficile, on parle du Standard évidemment, où il y a des points communs, ce manque d'argent, ce manque de vision parfois à long terme, ce manque de gouvernance.
Bien sûr, mais je pense que c'est deux cas qui sont comparables, alors différents par les structures, différents par les propriétaires, différents par la culture, mais très clairement. Alors ça prouve aussi que c'est extrêmement difficile partout dans la société, mais certainement dans le football, de rester au sommet. Quelqu'un qui débarquerait de la Lune après 5 ans se dirait, mais André, que c'est pas possible, ils avaient plein d'argent, ils avaient plein de bons joueurs, ils avaient une stabilité, qu'est-ce que c'est devenu? Ben, même chose au Standard. Et cette instabilité au Standard, si on retire la période de Nofrio, en fait, ben, elle existe depuis très longtemps. Alors on va voir ici maintenant, il y a des nouveaux propriétaires qui mettent le Standard aussi dans une autre dimension, une dimension internationale. Les propriétaires du Standard n'ont pas que le Standard et n'ont pas que ce bijou dans lequel qu'ils veulent développer. Ils veulent le développer dans un contexte de synergie, dans un contexte international. On ne connaît pas totalement les volontés et tous les projets, les volontés sportives et la politique sportive du Standard et son avenir. Elles sont aussi liées aux autres investissements faits par le propriétaire dans les autres pays aussi. Là.
C'est quoi qui sortira Anderlecht de la crise ?
De la stabilité et de la connaissance sportive. Pour moi, la plus grosse erreur qu'a fait Anderlecht ces dernières années, outre les discussions entre les patrons, outre les choix divers et variés sur les joueurs, c'est de se priver de Frank Vercauteren, qui est un enfant du club, qui est né à Anderlecht, qui représente l'arrogance, le talent, le côté bruxellois d'Anderlecht, le cynisme parfois, mais la culture de la gagne aussi. Se priver de cette incroyable expérience et connaissance du milieu, ben on le voit aujourd'hui, en fait, il y a peu d'Anderlechtois à Anderlecht.
Merci Christophe.
Merci à vous.
Bouche à oreille.
Ce sont les braquages les plus sanglants de l'histoire du pays, les tueries du Brabant. L'affaire remonte au début des années 80 et ne cesse depuis de passionner. Livres, films, documentaires et même un album, il ne manquait qu'une chose, une série télé. C'est chose faite, ça s'appelle 1985. C'est une coproduction VRT-RTBF. La série nous plonge dans une ambiance 80s, sublimée par plusieurs jeunes talents. Quelque part, entre fiction et documentaire, revivez un des moments les plus marquants de l'histoire du pays. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce dimanche sur la RTBF. On en parle avec Cédric Petit, journaliste média.
À quoi on doit s'attendre? C'est une série 100% belge qui a de ça de particulier que c'est la première série coproduite par la RTBF d'un côté et la VRT de l'autre, ce qui de mémoire de journaliste ne s'était encore jamais fait en Belgique. Donc cette série s'ancre dans cette histoire qui, bien qu'on, même sans être né, même si on est né dans les années 90, 90 ou après, c'est une histoire qui est connue de tout le monde et qui d'ailleurs 37 ans plus tard n'a pas encore livré tous ses mystères. puisqu'on ne sait toujours pas qui sont les personnes derrière les tueries du Brabant. Toute la vérité n'a pas encore été faite sur ces tueries. Mais l'autre intérêt, c'est que cette série ne raconte pas les tueries du Brabant, mais se centre au fait sur le parcours de trois personnes, deux garçons et une fille, deux garçons qui intègrent la gendarmerie à Bruxelles, venant de Flandre orientale, et qui vont découvrir, faire leur parcours tous les deux dans les forces de la gendarmerie en partant de tout en bas de l'échelle, et être confrontés au fur et à mesure des épisodes à la corruption qui gangrène la gendarmerie à l'époque, et chacun faisant son parcours à son niveau, le premier en fréquentant les hauts gradés et en voyant ce qui a pu se passer aux échelons les plus hauts de la gendarmerie, l'autre en étant plutôt impliqué très très vite avec des personnes proches des tueries du Brabant, et notamment la personne clé là-dedans, c'est-à-dire Madani Bush, qui est jouée par un comédien francophone. Et je terminerai par là, c'est que série belge oblige, série produite par la RTBF et la VRT oblige, la série est bilingue, donc elle se fait dans les deux langues du pays et donne la chance et l'opportunité à des comédiens des deux côtés du pays de briller. Donc on retrouve là le meilleur, la crème des comédiens francophones, et de l'autre côté des comédiens flamands qui sont tous excellents.
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première coproduction entre la RTBF et la VRT. Qu'est-ce que ça va apporter au paysage audiovisuel ?
Aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est très très difficile pour une chaîne de service public ou n'importe qui, que ce soit même pas de service public. On l'a vu avec l'affaire d'Outreau, la série documentaire qui a débuté la semaine dernière sur RTL. C'est très difficile pour une chaîne de télé de financer tout seul la production d'une série ambitieuse. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une collaboration entre une coproduction entre les deux chaînes de service public du pays qui permet d'avoir un produit mieux fait, un peu plus d'argent et éventuellement en mesure de rivaliser avec les mastodontes du secteur américain que sont Netflix et Disney+, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est une donnée qui est importante, c'est qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, pour produire des séries de qualité, il faut beaucoup d'argent et que par la coproduction, les chaînes de télé peuvent y arriver, quoi.
En quelques mots, pour terminer, pourquoi il faut regarder 1985 ?
Finalement, c'est une bonne histoire belge, comme je l'ai dit, avec des comédiens belges qu'on connaît bien déjà côté francophone. Donc on y retrouve Johan Blanc et Guillaume Kerbuche qu'on a vu dans La Trêve, mais pas que, Rhoda Fawaz aussi, qui a joué dans Unité 42 et qui joue Madani Bush. Et quand on ne connaît pas les séries flamandes, on découvre dans la série, comme je disais tout à l'heure, les meilleurs comédiens flamands qu'on puisse trouver et qu'on a déjà vu, se sont déjà produits dans de nombreuses séries en Flandre, qu'on ne connaît pas toujours. On en connaît déjà quelques-unes, mais on ne les connaît pas toujours. Et là, on a sur un plateau doré, et chacun dans leur langue, les comédiens francophones et flamands, le meilleur de ce qu'on peut trouver dans le pays, quoi.
Les deux premiers épisodes de 1985 sur vos écrans, c'est ce dimanche à 20h50 sur La Une et sur Ovio. Merci Cédric.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi.